qu'il a dit, c'est quoi son message?
Son message, il vient tout juste pour nous dire il y a la Prada, on vous auberge à la Prada, vous restez un moment, à ce qu'on vous envoie le premier pays que vous avez entré en Europe.
Oui, bonjour. Ici, merci d'être avec nous à nouveau. Pour la libre pensée, donc, sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin et moi-même, Michel Cadouche. Les médias multiplient les annonces pour la venue du pape à Marseille, ainsi que pour la messe qu'il célébrera au Stade Vélodrome le 23 septembre. Nous allons donc en parler, mais cela montre que la rentrée de la libre pensée se fait donc sous le sceau de la nécessaire défense de la laïcité. C'est pour cela que nous organisons une conférence samedi 16 septembre, c'est donc samedi en 8, au Tourski à 15h30. Un autre élément marquant de la rentrée sera le 23 septembre, une manifestation contre la violence policière d'État. Une manifestation qu'on aura aussi à Marseille comme à Paris, comme dans tout le pays, ce samedi 23 septembre. Commençons donc par cet événement. Michel, s'il te plaît. Explique-nous à quoi correspond cette manifestation qui aura lieu donc à 14h le samedi, d'après ce que je viens d'apprendre, contre le racisme et les violences policières. Michel,
oui.
À toi.
Oui, bon, ben merci. Bonjour à tous nos auditeurs. Alors, cette marche du 23 septembre, comme vous le savez, c'est le meurtre, c'est lié au meurtre de Noël, qui a été tué par un policier à bout portant, le 27 juin 2023, à Nanterre. Ce meurtre a mis en nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Le racisme systématique, les violences policières et les inégalités sociales que creuse la politique de Macron. Une politique néolibérale imposée par des méthodes autoritaires, des lois sécuritaires et une doctrine de maintien de l'ordre décriée jusque dans les plus grandes instances internationales. Une politique régressive qui fait le lit de l'extrême droite et piétine toujours plus nos libertés publiques. notre modèle social, notre avenir face à l'effondrement écologique. En première ligne des victimes de ces choix politiques, les habitants et notamment les jeunes des quartiers populaires et des territoires ultramarins, qui subissent de plein fouet l'aggravation de toutes les inégalités sociales dans un contexte économique d'inflation, de hausse des loyers, des prix de l'énergie et de politiques d'urbanisme brutales. Les réformes de la Macronie accentuent la pauvreté en durcissant notamment l'accès aux prestations sociales. La scandaleuse réforme de l'assurance chômage en est un exemple significatif, alors que la précarité du travail augmente. Les révoltes dans tous les quartiers populaires ne peuvent s'analyser que dans ce contexte socio-global. Les habitants et habitantes de ces quartiers, et notamment les maires isolés, pallient bien souvent seuls les carences des services publics dont la destruction s'accélère de jour en jour. À côté de cela, de nombreuses violences sont perpétrées contre les populations, délocalisation et destruction de l'emploi, évasion et fraude fiscale, mode de vie des ultra-riches écocidaires, super-profit des multinationales, mode de production hyper-polluant responsable de la crise climatique. Et pour cela, l'État laisse faire. De plus, les populations racisées et ou issues des classes sociales défavorisées, des quartiers populaires, des zones rurales et périurbaines appauvries, des territoires ultramarins, sont victimes de violences institutionnelles et systématiques, notamment policières. La politique répressive de l'État est encore renforcée par le dernier remaniement ministériel, qui a élargi les compétences du ministère de l'Intérieur à la ville, d'outre-mer et à la citoyenneté. La répression s'étend avec toujours plus d'intensité et de violences policières, d'interdiction de manifester contre le mouvement social et écologiste, comme lors de la lutte contre les réformes des retraites rejetées par l'immense majorité des travailleurs et travailleuses et leurs syndicats, et comme à Sainte-Soline. La liberté associative, directement et indirectement, est de plus en plus mise en cause. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'institution policière paraît hors de contrôle du pouvoir politique. Des déclarations factieuses de certains syndicats de policiers suite au meurtre de Naël, aux déclarations du directeur général de la police nationale et celles du préfet de police de Paris, ainsi que le ministre de l'Intérieur et l'institution policière qui aujourd'hui remet en cause l'état de droit, plutôt que de mettre fin à l'impunité des auteurs de violences policières. Nos organisations syndicales, associations, collectifs, comités de quartier populaires, de victimes de violences policières et partis politiques se mobilisent ensemble dans la durée pour la convergence des justices antiracistes, sociales et écologiques, féministes, et pour que cessent les politiques sécuritaires et antisociales. La crise démocratique, sociale, politique que nous traversons est très grave. Nous ne pouvons accepter qu'il y ait encore d'autres morts comme Naël, ou d'autres blessés, victimes de violences policières. Nous appelons à reprendre la rue samedi 23 septembre, comme on l'a dit, à 14h, à organiser des manifestations ou d'autres initiatives sur tout le territoire pour faire front ensemble contre la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques pour la fin du racisme systématique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. Nous exigeons des réponses immédiates dans l'urgence. Abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. La création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par le défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble du territoire pour rétablir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux. Nous appelons tous et toutes ensemble le 23 septembre. Le départ pour Marseille se fera donc à 14h à partir de la porte d'Aix. Donc nous donnons un rendez-vous à tous et toutes pour cette grande marche en défense de nos droits. Voilà.
Merci Michel. Donc on peut rajouter d'ailleurs un événement de ce matin qui est au point de vue de la répression, qui s'exerce contre le secrétaire général de la Fédération Mine-Énergie, pour laquelle bon, les syndicats ont manifesté ce matin. Bon, maintenant, je vous propose une pause musicale.
Alors, pour cette pause musicale, nous avons choisi une chanson qui s'appelle « War ». Par Cynil O'Connor. Alors je rappelle que cette chanson, War, c'est une chanson de Bob Marley parue en 1976 sur l'album Rastaman Vibration. Le texte s'inspire d'un discours contre la guerre prononcé par l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 octobre 1963. Elle est interprétée, cette chanson que vous allez entendre, elle est interprétée par Cynil O'Connor, qui était très engagé dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église catholique en Irlande. Elle a donc modifié les paroles de la chanson de Bob Marley en 1992 pour en faire un plaidoyer contre les abus dont sont victimes les enfants. Alors invitée sur scène dans l'émission de Saturday Night Live, diffusée sur la chaîne américaine NBC, la chanteuse a fait un véritable scandale. Pourquoi ? Parce que la chanteuse irlandaise a fini sa chanson en déchirant un portrait du pape Jean-Paul II sur scène en criant « Combattez le véritable ennemi ». Un geste qui a choqué et qui restera dans les annales. Depuis, elle est d'ailleurs interdite sur cette, elle a été interdite sur cette émission parce que maintenant, vous savez qu'en ce début d'année, Cynil O'Connor est décédé. Voilà la chanson.
Continent will not know peace. We
Maintenant, nous allons aborder notre deuxième sujet, la venue du pape à Marseille, avec une messe au stade Vélodrome. Cela devrait avoir lieu également le 23 septembre. Claudette, peux-tu nous faire le point sur le contexte de cet événement ?
Oui, Michel, alors bonjour à tous. Effectivement, le 23 septembre, le pape sera à Marseille. Il vient pour la clôture des rencontres méditerranéennes entre les évêques et des jeunes de la Méditerranée organisées par l'Église catholique et qui se tiendront du 17 au 24 septembre. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de ces rencontres et donc de la venue du pape ? Ces rencontres font suite, sont la suite et l'application des décisions prises lors de précédentes rencontres qui se sont tenues à Florence en février 2022 entre les évêques et des maires du pourtour de la Méditerranée. Si naturellement le cardinal Aveline, alors archevêque, y était, Benoît Payan y était présent aussi. Le but de ces rencontres pour l'Église, qui fait face à une crise sans précédent, était de rechercher les moyens de sa réimplantation dans une situation où elle voit son influence politique et le nombre de ses adeptes diminuer. Benoît Payan, donc à Florence, déclarait aux journalistes de Vatican News « Des jours studieux et importants face aux bouleversements sociaux, culturels et environnementaux de la Méditerranée. Nous, 500 millions d'êtres humains qui peuplons la Méditerranée, une mer berceau de l'humanité qui a vu les hommes, les richesses circuler, avons une responsabilité aujourd'hui plus qu'hier. L'Église catholique a cette prévalence dans ce moment et se pose avec les maires, quelle que soit leur sensibilité ou leurs orientations religieuses, de grandes questions, y apportant à sa manière des réponses. L'Église essaye de s'enrichir et d'enrichir les autres. » Fin de la citation. À l'issue des rencontres, les évêques et les maires ont signé une charte, la charte de Florence, établie, selon le journal du Vatican, sur le modèle des chartes médiévales et présentée comme document officiel qui a vocation à engager plus de coopération et de dialogue entre les entités politiques, religieuses et sociétales de cette mer intérieure à la croisée des continents et parfois source de fractures. Cette charte, que dit-elle ? Bien évidemment, au vu de sa longueur, je ne vais pas vous livrer ici la totalité. Je vais vous en citer quelques extraits qui, selon moi, sont importants, enfin, et les commentaires qu'ils m'inspirent. Vous aurez tout loisir de vous rendre sur le site de la mairie de Marseille pour vous informer plus amplement. Il vous suffira de taper dans le petit triangle de rectangle de recherche « Charte de Florence » et vous aurez la possibilité de le télécharger. La charte débute sur un constat. La nécessaire coopération entre ces villes et ces communautés religieuses pour la paix et le développement des nations et appelle donc au renforcement et la promotion du rôle des villes et du dialogue entre ces communautés civiques et religieuses. Ce constat renvoie plus loin dans le texte à l'appel au gouvernement de tous les pays méditerranéens à établir une consultation régulière avec les maires, avec tous les représentants pertinents des communautés religieuses, des autorités locales, des institutions culturelles, des universités et de la société civile sur les questions discutées dans cette conférence. Outre la question de la remise en cause de la laïcité, si nous l'appliquions, bien évidemment, la question de la République une et indivisible est très largement posée. Elle connaît et reconnaît donc la charte. La diversité du patrimoine et des traditions de la région méditerranéenne en tant qu'atout partagé par l'ensemble de l'humanité. Toutes les valeurs naturelles, ça je ne sais pas ce que c'est, environnementales, culturelles, linguistiques et religieuses de la Méditerranée, tangibles et intangibles, sont considérées comme des sources de dialogue et d'unité entre nos peuples et devraient être protégées et transmise aux générations actuelles et futures. Ainsi, les dogmes, valeurs intangibles, sont déclarés source d'unité des peuples et atout pour l'humanité tout entière. Ils doivent à ce titre être protégés et transmis aux jeunes générations. L'importance fondamentale de la reconnaissance d'un droit universel à la sécurité sanitaire et à la protection sociale dans la zone méditerranéenne. Sur le papier, ça fait très joli, mais en réalité, ce droit universel à la sécurité sanitaire et à la protection sociale, c'est l'assistanat, la charité dont se nourrissent les religions, qui était pratiquée en France avant les premières lois sociales. Le rôle central des villes, c'est l'inégalité des droits selon le territoire, selon la ville. Autre point, l'opportunité de promouvoir une véritable transformation sociétale visant à instaurer une culture de durabilité sociale, notamment par le biais de nouvelles formes de coopération entre les décideurs publics, les scientifiques, les leaders spirituels et culturels et les chefs d'entreprise. La culture de la durabilité sociale, je vous invite à aller voir sur des dictionnaires, en réalité, c'est l'ordre social maintenu. Il s'agit ici de mettre en œuvre les moyens rendant acceptable la misère, par exemple par la généralisation de la charité et des dons. Ça doit vous rappeler quelque chose. Et écartant les conflits sociaux. Toujours la charte. Ils appellent les gouvernements, les maires et les représentants des communautés religieuses à promouvoir le pacte mondial pour l'éducation à tous les niveaux, un parcours qui intègre les approches anthropologiques, communicatives, culturelle, économique, politique, générationnelle, interreligieuse, pédagogique et sociale pour faire émerger une nouvelle solidarité universelle et une société plus accueillante. Il faut savoir que ce pacte mondial, donc il faudrait appliquer, ce pacte mondial pour l'éducation et le programme de l'Église catholique lancé par le pape François le 12 septembre 2019, dont il disait que un point de référence est la doctrine sociale de l'Église, qui, inspirée des enseignements de la révélation et de l'humanisme chrétien, se présente comme une base solide et une source vive pour trouver les voies à parcourir dans la situation d'urgence actuelle. J'en finirai ici avec la présentation de cette charte. Sa lecture vous permettra d'en connaître davantage. J'ai commencé mon propos en citant « Ces rencontres sont la suite et l'application des décisions prises lors des précédentes. » Voici comment le cardinal Aveline les présente et présente les raisons du choix de Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Marseille, grande métropole cosmopolite, ville laboratoire, ça doit vous rappeler quelque chose, et ville message, microcosme de ce qui se joue en Méditerranée, a une mission particulière pour la France et la Méditerranée. En organisant les rencontres méditerranéennes, Marseille, comme église et comme ville, veut servir l'unité du genre humain dans cette région si particulière de la Méditerranée. Mettre en œuvre la charte de Florence en commençant par Marseille, établir la collaboration entre les religions et les pouvoirs publics, et mettre en œuvre les orientations de l'Église sur tous les sujets, tels sont donc les objectifs des rencontres méditerranéennes et de la venue du pape. Cette collaboration a déjà bien commencé, comme nous l'avons vu, avec la signature de la charte de Florence, et nous le verrons plus loin après un instant musical.
Michel, peux-tu?
Oui. Alors, pour cet instant musical, cette fois-ci, nous avons choisi la chanson L'Opportuniste, L'Opportuniste de Jacques Dutronc. Cette chanson, L'Opportuniste, c'est une chanson donc, de Jacques Dutronc qui est sortie en single 4 titres en septembre 1968. Jacques Dutronc, dans L'Opportuniste, attaque les politiciens, je retourne ma veste, toujours du bon côté, je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. La date et le texte indiquent que Jacques Dutronc s'attaque notamment aux hommes politiques faisant la récupération de mai 1968. Oui, voilà. Alors bien sûr, pour nous, notre référence, ce n'est pas mai 68. Ce sont ces élus qui, aujourd'hui, bafouent la laïcité et donc retournent leur veste par rapport à la République. Voilà la chanson.
Je suis pour le communisme. je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. Celui de retourner ma veste, mais toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Cette journée du 23 septembre, bien entendu, va donner lieu à de grandes dépenses. Alors, on peut se poser la question, peut-être, quelle serait la contribution financière des collectivités locales ? Déjà, on voit dans le programme qu'on peut consulter de ces rencontres, en tête, les logos de la ville de Marseille, de la métropole, de la région et du musée d'histoire de Marseille. Il y a aussi celui de Marseille Espérance. Voilà qu'il y a donc partenariat, donc probablement finance. Alors Claudette, s'il te plaît, peux-tu nous éclairer ?
Très bien, ben écoute, ça vient à la suite de ce que j'ai dit précédemment. Je vais donc vous parler des conditions de préparation des rencontres de la venue du pape et de la messe au stade Vélodrome. Ces manifestations se sont préparées et se préparent avec à la fois des soutiens politiques et des soutiens financiers. Le président de la République, Emmanuel Macron, accueillera le pape le 22 septembre, alors même que ce dernier a expliqué qu'il ne faisait pas une visite d'État. C'est donc le chef religieux de l'Église catholique qu'il rencontrera ce 23 septembre et à qui il donnera des cadeaux lors d'une rencontre formelle et avec qui il parlera politique, officiellement, sur la question des migrations, mais on l'a vu, le programme des rencontres est beaucoup plus large. Et c'est sans doute sur ces sujets qu'il discutera. Il s'agit là, à notre sens, la poursuite de sa politique cléricale de réparation des liens abîmés entre l'Église et l'État. Un tel acte de reconnaissance de la religion catholique et de sa politique par l'État est tout à fait inacceptable. Fera-t-il partie de ces hommes politiques prévus au Pharo pour la clôture des travaux des rencontres ? Sera-t-il à la messe et à quel titre ? Et combien cela coûtera-t-il aux contribuables ? Après tout, lorsque le président de la République se déplace pour une visite officielle, et ça va finir par ressembler à une visite officielle, il déplace beaucoup de monde, il est hébergé, il mange, et évidemment, il faut payer les transports qu'il utilise. Voyons à présent une autre implication politique. Celle de Benoît Payan, encore, mais je suis désolé, acteur depuis au moins février 2022, date des rencontres des évêques et des maires de la Méditerranée à Florence. Benoît Payan, maire de Marseille, qui a signé la charte de Florence, à propos de la venue du pape, a déclaré à l'occasion d'une interview sur Télématin « Je lui ai écrit, il y a plus d'un an, pour lui dire qu'il serait ici le bienvenu. C'était les prémices, le début. Un maire d'une ville, d'une république laïque, qui invite le pape. Cette position totalement contraire à la séparation des églises et de l'État, pour nous, est tout à fait aussi inacceptable. Et ce n'est pas fini. C'est par son entremise que la messe du pape se tiendra au stade Vélodrome le 23 septembre, alors qu'elle était prévue au départ à l'hippodrome. Mais le diocèse tenait au stade, et le pape aussi. Alors, le maire a réuni les représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère des Sports, du diocèse de Marseille, les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby, afin de répondre positivement à cette demande. Et c'est donc grâce à ces alliances, parce que bien entendu, ils sont d'accord, que le pape fera sa messe au stade Vélodrome. À ce jour, rien n'a été dévoilé sur la participation financière de la mairie. Mais la mobilisation, ne serait-ce que des agents municipaux, aura forcément des répercussions financières importantes. D'autres élus ont participé aussi à cette préparation. Ainsi, une rencontre a eu lieu avec le cardinal Aveline lors d'un débat que rapporte l'ambassade de France près le Saint-Siège, ça c'est l'appellation officielle, dîner qui réunissait autour du cardinal le groupe d'amitié France-Saint-Siège présidé par M. Dominique Legge. Y participaient entre autres les sénateurs des Bouches-du-Rhône, Mme Valérie Boyer, Mme Marie-Arlette Carlotti, Mme Brigitte Devesa, Jean-Noël Guérini. Parmi les sujets abordés, il y avait l'organisation de la prochaine venue du pape, les rencontres méditerranéennes, la situation de l'Église de France, la situation des convertis de l'islam au christianisme et le risque de sécularisation des jeunes générations. Il y a aussi ce que rapporte le maire de Cuges-les-Pins. Un dîner d'élus avec le cardinal Aveline dans le restaurant de Notre-Dame-de-la-Garde. Sur le plan financier, mais toujours aussi sur le plan de soutien politique, Madame Vassal, présidente de la métropole, Monsieur Muselier, président du conseil régional, ont fait voter les instances délibératives de leurs collectivités locales respectives pour des subventions d'argent public. Pour ce qui concerne la métropole, des subventions ont été votées pour les rencontres méditerranéennes, évêques et jeunes de la Méditerranée, et pour la visite du pape. La métropole. Le bureau de, je vous le lis, hein, le bureau de la métropole Aix-Marseille a voté une délibération le 29 juin 2023 sous le titre « Approbation d'une convention de partenariat pour les rencontres méditerranéennes et la visite du chef de l'État au Vatican ». Bon. Cette délibération fait suite à la demande d'une association nommée MARIAM, qui est une association, loi 1901, déclarée, qui a son siège social 14 places du colonel Edon, dans le 7e à Marseille. Pour les non-marseillais, il s'agit du siège du diocèse de Marseille. Sa parution au journal officiel date du 22 avril 2022, moins de deux mois après la clôture des rencontres de Florence. Les engagements de la métropole sont évalués à 160 000 euros pour la mobilité, avec une mise à disposition de navettes pour le transport des participants, abonnants et hebdomadaires pour les jeunes invités, renforcement de l'offre de transport pour le 23 septembre 2023 autour du stade Orange Vélodrome. Pour la propreté et les déchets, bon, ça, on va pas, ça va presque de soi, donc on ne s'étendra pas là-dessus. Sur la mise à disposition du siège de la métropole au Faro. Le Faro, qui, je vous le rappelle, va recevoir les évêques et les jeunes. Il recevra forcément le pape, puisque il y aura la clôture des événements méditerranéens à cet endroit. Pour la sécurité, et enfin pour la communication, mise à disposition d'un dispositif de communication pour une durée de 15 jours. Le conseil régional, lui, a pris une délibération qui mentionne le soutien du conseil à la venue du pape. La région souhaite pleinement contribuer au succès des rencontres méditerranéennes qui se tiendront à Marseille du 17 au 24 septembre 2023 à l'occasion de la visite historique du pape François à Marseille, la dernière visite d'un souverain pontife à Marseille remontant à 1533. Je vous signale que ça, c'est un document officiel de la République. Les rencontres qui réuniront des jeunes venus des 30 pays de la Méditerranée, des acteurs institutionnels, économiques, culturels et associatifs méditerranéens dans le cadre d'un festival interculturel méditerranéen ouvert à tous. Les subventions, 200 000 euros seront réservées afin de soutenir les associations qui organiseront les rencontres méditerranéennes. 40 000 euros seront versés à l'Institut catholique de la Méditerranée pour son projet Maison de la Sagesse, Fabrique de la Confiance, qui débutera des rencontres donc, à Marseille à l'occasion des rencontres méditerranéennes du 18 au 23 septembre. En complément des rencontres méditerranéennes, la région sud organisera la manifestation Méditerranée du futur et prévoit de financer hébergement et restauration pour 100 jeunes. 20 intervenants et 60 invités venus de pays de la Méditerranée. Il est aussi question d'assurer la promotion d'un nouveau parcours de randonnée sur les pas de Marie-Madeleine. Si la prudence est de mise dans la façon de présenter les choses dans les délibérations, mais pas toujours, les participations de ces deux collectivités n'en sont pas moins conséquentes et ce n'est que ce que nous connaissons. Ma liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle montre en tous les cas l'implication des élus, l'implication des collectivités locales, territoriales, pour la venue du pape, pour la messe du pape et pour les rencontres méditerranéennes. Et donc, pour l'application de la charte de Florence. Je vous remercie.
Eh bien, nous allons à nouveau illustrer cela par un peu de musique.
Alors pour cette fois-ci, là, pour l'intermède musical, nous allons vous mettre une chanson que nous avions déjà passée il y a quelque temps, mais qui nous a bien plu en définitive, hein, parce que vous avez vu que le Vatican a besoin d'argent, parce que essentiellement il n'en aurait pas. Voilà, donc cette chanson s'appelle « Il y a plein d'argent au Vatican ». C'est le groupe JPPL, qui était une formation satirique, qui a sorti ce disque en 1965 ou 66. Hein. On n'est pas très sûr de la date. Voilà.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. l'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Saint-Pierre de Rome s'affale sous le poids des lingots. Faudrait des succursales ou bien faire des travaux. Si lourde est la cassette dont les papes sont coiffés, que lorsqu'ils baissent la tête, c'est pas d'humilité.
Y'a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Y'a tant d'or dans les cuves qu'ils passent par-dessus bord. C'est pour ça que le Vésuve vomit des lingots d'or. Et même la tour de Pise est prête à s'écrouler, ainsi que les églises, elle est pleine à craquer.
Y'a plein d'argent au Vatican, y'a du fil, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ça n'est pas pour les enfants.
Ils pourraient toujours faire un peu de vide en appelant les camions de l'abbé Pierre aux caves du Vatican. Mais au jugement dernier, Dieu ne trouvera en plus que des toiles d'araignée. Tout sera planqué en Suisse.
Y'a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, 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 doudoum.
Au jugement dernier, Dieu ne pourra en coulisses que l'étoile d'araignée.
Tout sera planqué en Suisse. Y'a plein d'argent au Vatican,
des rubis, des louis, des diamants.
Y'a plein d'argent au Vatican,
mais ce n'est pas pour les enfants. Y'a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Ce n'est pas pour les enfants.
Oui, au vu de ce qui a été exposé, il est logique de poser la question, mais que devient la laïcité dans cet événement ? Michel, s'il te plaît.
Alors, bien entendu, vous avez vu que nous avons nos différentes interventions concernant donc cette venue du pape. Alors, bien entendu, nous tenons à être clairs, hein, nous ne sommes absolument pas contre la venue du pape. Ce n'est pas ça le sujet. Nous sommes en définitive contre le financement public de cette venue du pape. Hein. Alors, donc, bien entendu, donc, non seulement le financement public, mais également les soutiens politiques qui sont contraires, en définitive, à une république laïque. Voilà, donc je tenais, alors je vais vous lire plutôt, un texte, je dirais, de notre camarade Henri qui avait préparé son intervention et qui malheureusement au dernier moment n'a pas pu venir. Donc je me permets de reprendre cette déclaration qu'il avait faite et sur laquelle je me suis permis quelques petites, pas fantaisies, mais quelques petits avis à la fin. Voilà. Alors nous vivons à une époque où certains parlent de laïcité quand ils ont un sujet répressif à faire passer. Ils sont coutumés de ces manipulations politiques. Parler de réforme quand il s'agit de destruction, de plan social quand il s'agit de licencier, de démocratie quand il s'agit d'arbitraire, et donc parler de laïcité en particulier lorsqu'il s'agit de mesures quelque peu teintées de racisme. Pour répondre à cette question, il faut donc d'abord redire ce qu'est la laïcité, dans sa lettre comme dans son esprit. La loi de séparation des cultes et de l'État fut promulguée le 9 décembre 1905. Et c'est cette loi qui a établi la laïcité en France, qui n'est pas, donc on tient à le souligner, le seul pays à avoir une loi de ce type, loin de là. Que dit-elle ? Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit la liberté de culte. C'est donc une loi qui programme la liberté pour les citoyens de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance. L'État n'a donc pas à être le gendarme des consciences, de dire quelle est la bonne religion ni quelle est la mauvaise. Les citoyens, les individus, peuvent donc pratiquer leur culte librement dès lors qu'ils ne créent pas de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire crime ni délit, ce qui va de soi. Article 2. La République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. à l'exception des aumôneries, des lieux clos dont les citoyens ne peuvent sortir pour pratiquer le culte. Armée, prison, hôpital, internat des lycées et collèges, quoi, qu'il y en a de moins en moins. Il s'agit de protéger l'État, les communes, les services publics, de la mainmise des dogmes religieux, tout aussi bien que de protéger les religions de la tutelle, parfois policière, de l'État. Chacun est libre de pratiquer son culte à ses frais. La République doit s'occuper des écoles, des hôpitaux, du logement, des routes, des stades et des bibliothèques. Pas de religion qui est une affaire privée qui relève de la conscience des citoyens. Dans cette affaire de la messe du pape au Vélodrome, on voit que des élus qui devraient être garants de la laïcité se comportent en serviteurs d'une religion bien précise. La religion catholique est parfois même en pur et simple adjoint du cardinal. La palme de l'hypocrisie jésuitique revient à Darmanin qui a déclaré à Marseille, il y a peu, « La République ne reconnaît aucune religion, mais en fait, elle les reconnaît toutes. » Il reconnaît en effet ceux qui auront des subventions et ceux qui auront des coups de bâton. Cette palme lui est tout de même disputée par quelques élus des Bouches-du-Rhône qui ne savent plus eux-mêmes s'ils sont maires, députés et sénateurs. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous poser peut-être une question. Voilà. Qui a dit « Nous sommes fiers et nous sommes heureux que nous ayons un cardinal de proximité comme le cardinal Aveline et c'est très important pour nous d'être à côté de lui pour transporter la foi auprès de nos administrés, de nos populations, auprès de nos habitants. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre l'Église. C'est ensemble, laïcité, Église, nous sommes tous ensemble. » Et c'est ensemble que nous gagnons. Alors qui c'est ? Eh bien, il s'agit tout simplement de Serge Péritineau, maire de Cadolive, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et vice-président de droit de la métropole, délégué aux relations institutionnelles. Cette intervention a été faite lors d'une interview filmée à Rome à l'occasion de l'installation du cardinal Aveline dans l'église Santa Maria in Monti où il s'était rendu avec 7 maires du pays d'Aubagne. Alors, bien sûr, dans ce pays d'Aubagne, je vous appelle à lire notre journal L'Impertinent, qui est un excellent journal, où on apprend beaucoup de choses. On a d'autres écrits, bien sûr, concernant ce que vous appelez tout à l'heure. Claudette vous a parlé des maires, plus particulièrement des 7 maires du côté de Cadolive. Eh bien, il y a eu des dires, vous les verrez, ces trucs. Par exemple, nous vous rappelons, donc là, je cite, « Nous vous rappelons que dans l'histoire de notre pays, dans un village français, il y a 4 éléments fondamentaux. La mairie, l'école, le monument aux morts et l'église. » Autre chose, par exemple, toujours dans ces discussions, cela a été un honneur pour les maires que nous sommes de faire entrer un peu dans nos communes, dans la maison pontificale. Alors, vous voyez que quand même, quelque part, il n'y a pas de doute sur la volonté des maires de faire reconnaître officiellement la religion catholique comme étant la religion de ces villages. Ça, c'est clair et net. Alors, en conclusion, il appartient aux défenseurs des libertés démocratiques, de la République et de la laïcité de se mobiliser unitairement pour agir. C'est pourquoi, justement, on vous a parlé tout à l'heure de cette réunion publique qui doit avoir lieu le samedi 16 septembre à 15h30 au Théâtre Tourski. Et cette réunion publique, elle tient à mettre l'accent sur toutes ces dérives, je dirais, des dérives républicaines, et qui vont à l'encontre de la laïcité. Bien sûr, vous trouverez ces invitations un peu partout, vous les trouverez partout, sur Facebook et tout ça, et on tient à une présence nombreuse des laïcs face à cette dérive catholique, je dirais, ce prosélytisme catholique qui a lieu aujourd'hui sur Marseille. Voilà. Alors, bien entendu, pourquoi le thème de la réunion, c'est ça, ce qu'on te fait, c'est que la Fédération nationale de la libre pensée agit pour la défense et la promotion de la loi de 1905, de séparation des cultes et de l'Église. Et elle défend les acquis les plus précieux dans la société française. C'est la liberté de conscience. La liberté, la libre pensée le dit clairement, la laïcité, c'est que la République assure la liberté de conscience de chacun et chacune. Le pape peut librement se déplacer et dire la messe après des catholiques, comme tout fidèle de toute religion doit pouvoir pratiquer son libre culte, ce qui n'est pas toujours la vérité. Eh, parce qu'on a eu l'occasion de voir, là, on a fait, à un moment donné, il y avait tout un tas d'interventions pour des prières dans la rue. Là, ce n'est pas une prière dans la rue, c'est une prière dans un stade public, je dirais, enfin, qui est maintenant privé, d'accord. Mais on peut l'assimiler à ce truc-là. Donc, la laïcité, c'est la séparation. La République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne s'arrête aucun culte, quel qu'il soit. Voilà ce qu'on peut dire. En conclusion, il faut rappeler quand même que pourquoi toutes... je vais conclure là-dessus. Il faut savoir que dans des sondages, aujourd'hui, pourquoi cet intérêt, justement, pour Marseille ? Alors, il faut savoir que dans des sondages, maintenant, je tiens à apporter là, une petite précision, que de 80 à 2018, les gens qui croient en Dieu, de 62%, le pourcentage est descendu à 50%. Des gens qui se disent catholiques, de 70%, c'est tombé à 32%. Alors qu'aucune religion s'est montée de 26 à 58%. Voilà un peu ce qui peut expliquer pourquoi cet assaut sur Marseille. Voilà ce que je pouvais dire sur cette intervention.
Merci. Écoute, si tu pouvais aussi nous passer, par exemple, je crois qu'on a prévu Le sabre et le goupillon de Jean Ferrat.
Voilà. Alors, bien entendu, on va passer cette chanson de Jean Ferrat qui est sortie en 1965. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, quand on parle le sabre et le goupillon, on peut dire que c'est la touche finale de notre intervention, puisque en début, nous avons parlé des manifestations contre la répression. Là, on peut dire que c'est le sabre, hein, c'est le sabre. Et après, tout ce qui vient derrière, avec la messe et tout le reste, le goupillon. Cette chanson entre complètement dans le contexte de l'émission.
Huit chemises, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposaient le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, des forts en téléum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Ouais, très bien, donc c'est très illustratif. Et effectivement, donc, je ne peux que vous rappeler et appeler à venir à cette réunion publique du samedi 16 septembre à 15h30 au Théâtre Tourski, hein, qui est placé pour le respect de la loi 1905, pour la séparation des cultes et de l'État, pour l'abrogation des concordats, pour la fin des privilèges accordés aux religions. Voilà. Et cette conférence, enfin cette réunion sera introduite
par notre secrétaire général, Christian Echen. Et je pense qu'on pourra aller au-delà de ce qui a été exposé à cette émission. Hein. Voilà. Sinon, dans les rappels, il y a aussi cette manifestation du samedi qui suit pour le 23 septembre, donc la marche pour les, contre les violences policières et contre la répression, hein, parce qu'on sent qu'il y a une volonté, et on le voit aussi à travers de ce qui a été exposé déjà ici, ce qu'on veut faire aux jeunes, le service national universel, c'est une volonté de corseter la société à laquelle nous assistons. Hein. Voilà, donc cette manifestation, elle aussi, est importante. Voilà, vous retrouverez...
Mais excuse-moi, Michel, oui, j'interviens, je me permets de te couper la parole, ce qu'on ne doit pas faire, normalement, parce que concernant cette manifestation du 23 septembre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une faute impardonnable. Et j'ai oublié quand même de dire que, bien entendu, il y a tout un tas d'associations, de partis politiques. Je n'en citerai que quelques-unes, hein, mais juste pour donner un petit aperçu. Il y aura les organisations, les collectifs et comités de quartier populaire qui, normalement, seront en tête de la manifestation. Il ne faut pas l'oublier. C'est eux, normalement, qui sont la tête d'affiche, je dirais, puisque c'est eux qui en subissent les conséquences dans les quartiers populaires. Hein, nous avons donc, là, par exemple, des coordinations pour la défense des habitants des quartiers populaires, comité justice, comité stop violence. Voilà. Nous avons d'autres associations. Alors, bien entendu, dans les associations, nous avons la libre pensée. Hein. Nous appelons nos camarades libre penseurs à venir également dans cette manifestation. Nous avons également des syndicats. Nous avons la CGT, la FSU, l'Union solidaire, le mouvement national lycéen. Nous avons tout un tas d'associations. Hein. Si vous voulez avoir une liste, vous l'aurez sur le site très bien que de la Libre Pensée. Et nous avons également plein d'organisations politiques. Nous avons l'Europe Écologie Les Verts, l'Ensemble, le mouvement alternatif, la LFI, le NPA, le POI, le PCF. Ce que je veux dire, c'est que ce sera une mobilisation importante. Hein. Ce sera des syndicats, des associations et des collectifs. Donc nous invitons à venir en masse pour cette manifestation. Voilà, Michel, je m'excuse d'être intervenu comme ça sur la ligne.
C'est très bien. Vous pourrez aussi retrouver des éléments de ce que nous avons dit dans l'impertinent qui vient de paraître. Je ne peux pas oublier de citer aussi les publications de la Libre Pensée que sont l'Idée Libre, la dernière qui vient de paraître, traite du dossier de l'Italie en 1943, c'est-à-dire à la chute du fascisme. Hein, vous y trouverez des choses que vous pourriez peut-être ignorer. Et non, vraiment, c'est un très beau dossier. Et puis, vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Libre Pensée, qui est lp-13.org. Merci, au revoir, puis au mois prochain, parce que ce sera là encore le premier mercredi du mois. Le premier mercredi du mois d'octobre à 14h. Merci. Oh.
Voilà, avant de rendre l'antenne, bien sûr, je tenais, moi, à remercier notre camarade Daniel, qui est à la régie avec moi, parce que quand même, sans lui, on aurait des difficultés peut-être à faire l'émission. Voilà. Alors, bien entendu, vous avez l'émission, vous allez la retrouver sur le site LP13, mais vous la retrouverez en podcast également sur la Radio Galère, hein, que nous tenons à remercier pour nous céder ce temps d'antenne. Voilà, là, c'est la conclusion. Oui.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des fonds. Mighty Mouse, if you don't escape when I know.